Bonjour, comme tous les mercredis, vous êtes à l'écoute de RESF, hein, le réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net pour nous écouter en streaming partout dans le monde. Hein, n'avez pas oublié le wa devant RFPP. RFPP, qu'est-ce que je dis ? Oui, c'est ça, rfpp.net. Donc aujourd'hui, cette émission sera rediffusée mardi matin de 7h à 8h et très bientôt téléchargeable sur le site RESF. À l'adresse resf.info/radio. Et donc là, vous allez sur l'onglet RESF sur FPP et vous pourrez réécouter et télécharger cette émission, la télécharger gratuitement, bien sûr. Aujourd'hui, on est avec Violaine Carrère. Bonjour Violaine.
Bonjour.
Et tu vas nous parler surtout des mineurs isolés étrangers à Paris et de l'accueil, ou plutôt du non-accueil, des mômes, des jeunes qui sont là. Et pour ça, donc, on devrait recevoir un appel de Bran du 115 du particulier, mais qui avait prévu de venir. Mais c'est vrai que pour nous, la priorité, quand on a la radio, c'est de parler derrière le micro. Mais il y en a d'autres dont la priorité, c'est pas de parler derrière le micro, c'est de faire, ce qui était le cas de Bran, qui m'a appelé en étant désolé, en disant qu'ils ne pouvaient pas venir, enfin, si c'était possible qu'ils ne viennent pas, parce qu'ils avaient énormément à faire, une situation d'urgence, et il nous parlera de cette situation d'urgence tout à l'heure. Et on devrait recevoir aussi, donc, qui viendra encore d'émission, Jean-Pierre Fournier, qui est prof de lycée et qui est surtout un des militants du RESF et qui connaît bien, et qui pratique bien cette situation des mineurs isolés, étrangers, non accueillis, qui sont à la rue, puisque ça concerne certains de ses élèves et qu'il est très impliqué dedans. Mais avant quand même, donc notre petit journal, quelques infos de la semaine. Alors on va commencer par quelque chose qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais qui est une nouveauté quand même. C'est donc les tests osseux, c'est pas une nouveauté puisque ça fait très longtemps qu'on les dénonce. Mais il y a une dizaine de jours a été publié un appel pour la proscription des tests osseux et sur les mineurs étrangers, donc qui a été publié sous forme de tribune dans Le Monde et qui a recueilli au moment où je préparais cette émission, c'est-à-dire il y a quelques heures, mais ça gonfle. Et donc il y a quelques heures, c'était 7330 signatures en ligne en à peine 10 jours. Donc c'est pas mal, c'est donc pour demander l'interdiction de ces tests osseux. Alors on peut continuer à signer cette pétition en ligne puisque elle est en page d'accueil du site de RESF.
Peut-être que ce qu'il faut ajouter, c'est que non seulement il y a 7000 signatures, mais parmi les signataires et les premiers signataires, il y a des gens qui sont des médecins, qui sont des sommités du monde médical et qui ne sont pas des doux, farfelus, gauchistes, etc., mais des gens qui sont des spécialistes de la question qui est traitée dans cet appel.
Oui, on a des médecins, des physiciens, des scientifiques, des juristes, ça doit faire un bon millier des premières signatures sont effectivement des pointures du monde scientifique et sinon on peut se retrouver partout, tout scientifique sérieux dit que ces tests osseux sont extrêmement utiles pour déterminer l'âge osseux, pour une utilité thérapeutique, pour voir où on en est sur la calcification des os et quelles thérapies on peut utiliser pour ça, et en aucun cas pour définir
un âge. Ce n'est même pas qu'ils sont utiles pour ça d'ailleurs, ils ont été créés pour cet usage, c'est-à-dire pour des enquêtes de santé publique aux États-Unis dans les années 30. Et ils ont subi quelques vagues adaptations qui permettent de s'en servir parce qu'on n'a rien d'autre, en fait, pour un usage pour lequel ils n'ont pas du tout été conçus, c'est-à-dire la détermination de l'âge. Mais ce ne sont pas des tests de détermination d'âge. Voilà.
C'est des tests de détermination d'âge osseux qui n'ont rien à voir avec un âge légal. C'est comme quand on dit, si je dis ma maman, elle a un cœur de 20 ans, ça ne veut pas dire qu'elle a 20 ans, ça veut dire qu'elle a un cœur de 20 ans et tout le monde comprendra qu'elle a un cœur de 20 ans.
Très bonne comparaison.
Voilà, donc ça, on peut aller évidemment signer cette pétition qui est en page d'accueil du site RESF. Et autre chose dont je voulais aussi parler aujourd'hui, c'est à propos des travailleuses et des travailleurs du salon de coiffure du 57 boulevard de Strasbourg, qui sont donc en grève et qui occupent depuis plusieurs mois ce petit salon de coiffure, dont on avait déjà parlé, on les avait reçus d'ailleurs ici. Alors il y avait un procès contre les patrons parce que il y a ce mouvement de grève qui est soutenu par des syndicats, des syndicalistes, et des politiques. Alors il y a eu donc des menaces de mort contre les grévistes, mais aussi des menaces de mort contre des soutiens syndicalistes et des élus. Et il y avait donc le procès hier, et le délibéré est au 9 mars. Hein, donc menace de mort quand même contre deux syndicalistes, contre un élu du 10e, ça fait beaucoup. Et actuellement, se tient un rassemblement à Matignon. Enfin, pas exactement à Matignon, hein, parce qu'on ne peut pas se manifester devant Matignon, mais c'est à l'angle de la rue de Varennes et de la rue du Bac pour interpeller le Premier ministre et demander leur régularisation pour devenir enfin des salariés comme les autres.
Ce qui est très intéressant dans ce mouvement, c'est que non seulement c'est une grève de travailleurs et travailleuses sans papier, comme on en a connu d'autres, et qui réclament en effet la régularisation à titre de séjour, parce que voilà, il y a le travail depuis des années pour certaines en France. Mais en plus, c'est un mouvement qui dénonce un mécanisme de traite, qu'on peut en tout cas tout à fait assimiler à de la traite. Et ce mouvement, du coup, il fait apparaître les carences de l'État pour répondre à cette revendication qu'on considère ce qui est de la traite comme de la traite.
Voilà. Et c'est même très inquiétant le fait qu'il ne soit toujours pas régularisé au jour d'aujourd'hui. Alors, il voulait attirer l'attention du Premier ministre, hein, M. Valls, qui a aussi été en son temps ministre de l'Intérieur, et ça n'est pas neutre en l'occurrence. Donc, la semaine dernière, ils ont envoyé une lettre à M. Valls, lettre ouverte qui a été publiée dans Mediapart et qui circule sur pas mal de listes de diffusion et qui a été reprise par pas mal de médias. Et peut-être on va en lire quelques petits morceaux maintenant parce qu'elle est quand même intéressante, cette lettre. Mmh. Hein, donc c'est « Monsieur le Premier ministre, malgré notre situation de vulnérabilité, dépourvue de titre de séjour pour 14 d'entre nous, victimes dans nos pays d'origine, menacés au quotidien par nos patrons, nous avons décidé de lever la tête, sortir de l'ombre, nous battre depuis 8 mois et dire stop à la mafia qui nous exploite à Château d'Eau. » Château d'Eau étant le quartier de Paris où ça se situe. Nous avons parlé dans les médias à visage découvert, nous avons pris des risques, nous avons subi des pressions, mais nous avons osé porter plainte pour traite des êtres humains et accepter de travailler avec les services de police. Depuis, certains d'entre nous ont été menacés de mort, tout comme ceux qui nous soutiennent. Le 26 janvier, à 9h, se tiendra, donc c'est tenu au tribunal correctionnel de Paris, donc le procès dont je parlais. De nombreux soutiens se sont manifestés autour de nous, des intellectuels, des cinéastes, des comédiens, des syndicalistes, des associations, de nombreux élus et des partis politiques, des syndicats de policiers, d'inspecteurs du travail, d'agents de la préfecture de police, de magistrats, d'avocats. De nombreux journalistes se sont intéressés à notre histoire et nous ont entendus avec attention, et nous ont invités sur leur plateau de télé ou radio. Donc ici même d'ailleurs, hein, un film a été réalisé sur notre combat par de grands cinéastes français. Pourtant aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas protégés par un titre de séjour, alors que les textes de loi le prévoient. Malgré les différences de langue et de culture qui nous séparent et qui ont été volontairement organisées par nos patrons afin d'éviter toute concertation et toute rébellion, nous avons réussi à nous unir et à nous mettre en grève. Nigérians, Ivoiriens, Chinois, Sénégalais, Burkinabés, Maliens, Guinéens, francophones, sinophones, anglophones, nous avons su dialoguer pour porter le combat haut et fort pour nos droits, mais aussi pour les droits de tous les travailleurs. Si nous ne recouvrons pas nos droits, si notre voix n'est pas entendue, ce sera une victoire pour les mafias qui nous exploitent et un recul pour les droits de tous les salariés de France. Si vous acceptez la violence des hommes qui nous disent « tu acceptes ces conditions de travail-là » où c'est le trottoir, ce sera un recul pour les droits de toutes les femmes. Si la traite des êtres humains n'est pas combattue en plein cœur de la capitale, ce sera un recul pour les droits de chaque être humain. Allez-vous entendre notre appel, Monsieur le Premier ministre ? Allez-vous dire au réseau qui nous exploite « Stop, la France ne vous laissera pas faire ? » Nous avons des compétences en coiffure afro, en manucure. Protégés par un titre de séjour, nous pourrons enfin nous reconstruire et être des salariés comme les autres, avec des droits et des devoirs. Nous pourrons enfin cotiser et ainsi participer concrètement au renforcement et à la pérennisation du système de protection sociale. Nous sommes des travailleuses et travailleurs de France. Nous sommes aussi la France dans toute sa diversité. Et ça, c'est une lettre du 28 janvier... Oui, pardon, le 28 janvier 2013. Et ensuite, on appelle au rassemblement, on prévient le ministre qu'on se rassemblement et que l'on demandera audience. Donc voilà pour les 18 travailleurs du 57 Boulevard de Strasbourg. Moi, c'est une lettre qui m'a beaucoup touchée.
Mmh. Oui, elle est très bien, elle est très forte, à la fois parce qu'elle souligne ce qui est spécifique dans ce mouvement. En effet, parfois, on a vu des grèves de travailleurs qui étaient uniquement des Maliens ou uniquement des Chinois. Là, on voit qu'en effet, il y a des personnes venues de plein de coins de la planète. Ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est ce rapport avec la traite. Peut-être que tout le monde ne sait pas qu'une disposition du Code des étrangers prévoit qu'en effet, si une personne victime de réseau de traite dénonce son proxénète, elle peut, c'est très difficile à obtenir, c'est très très compliqué, mais voilà, les textes disent ça, elle peut obtenir, en effet, pour être protégée, pendant que justement elle se met en danger par cette dénonciation, un titre de séjour. Alors c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que il tente, avec toute pertinence, de réclamer la même chose pour ce système de traite qui ne conduit pas, pour l'instant en tout cas, au travail de prostitution, mais au travail dans un salon de coiffure.
Voilà, et c'est donc des conditions qui sont tout à fait inquiétantes. Et que là, en plus, c'était quand même une histoire qui fait apparaître des choses qui sont tout à fait... Enfin, qu'on avait dit la dernière fois qu'on était ici, qu'ils étaient venus, des choses tout à fait surprenantes au niveau de traite d'êtres humains,
Systèmes de prête-nom, avec des systèmes de malversation.
Voilà, des systèmes de malversation.
Toutes sortes de choses assez occultes et pas très saines.
Et sinon, donc, on a eu très récemment le résultat de l'opération Mos Maiorum, dont on avait parlé il y a quelques mois. Ça, je crois que tu connais mieux le sujet encore que moi.
Je ne sais pas ce que tu voulais qu'on en dise. En effet, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un rapport qui permet d'avoir quelques données sur les migrants interpellés, sur les interceptions, sur les parcours, les origines. Alors, les conclusions du rapport côté chiffres disent que cette opération, donc Mos Maiorum, a abouti à l'interpellation de 19 234 personnes. 11 000 parmi elles ont demandé l'asile au moment, juste après leur arrestation, et que en fait Mos Maiorum finalement arrête majoritairement des personnes qui cherchent une protection en Europe, un quart d'entre elles étant des Syriens ou Syriennes. Donc on voit bien avec les origines nationales des personnes qui ont été arrêtées que la plupart, la très grande majorité, viennent de pays en guerre, de pays qui sont dans des régimes dictatoriaux, éventuellement des pays qui sont en voie de rejoindre l'Union européenne comme le Kosovo ou l'Albanie. Et finalement, Mos Maiorum arrête essentiellement des réfugiés ou des citoyens de l'Union européenne. Frontex regrette que les médias aient présenté cette opération, Mos Maiorum, comme une opération visant à arrêter les sans-papiers. Et c'est vrai qu'il y avait une petite campagne d'information avec des tracts, y compris affichés dans la rue, sur des arbres, etc., pour prévenir les sans-papiers qu'il y avait une grande opération conjointe d'arrestation dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et Frontex proteste en disant mais il s'agissait d'arrêter des passeurs. Sauf qu'en fait, les personnes qui ont intercepté l'opération, ce sont essentiellement des migrants. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont présumées passeurs, mais présumées passeurs, c'est toujours très compliqué comme concept, parce qu'il suffit que un passeur véritable affrète un bateau. Affrète, c'est parfois un grand mot pour parler de la façon dont se conçoit cette opération, mais bon, fasse en sorte qu'il y ait un bateau et des migrants qui pourront monter à bord ce bateau. Le passeur, éventuellement, il ne va pas monter sur le bateau lui-même. Il va regarder son public, il va dire qu'est-ce qui peut se débrouiller un peu, qui a déjà navigué, ou qui peut lire une boussole, ou qui sait servir d'un téléphone satellitaire, ou enfin voilà, quelques questions de ce type-là. Et s'il y a un peu plus débrouillard que les autres, qui lève la main en disant « moi je peux », il devient le capitaine du bateau, capitaine de fortune. Éventuellement, au moment où les migrants sont arrêtés et qu'on les interroge, ils vont dire c'était un tel qui était le responsable de l'embarcation. Alors évidemment, on va présumer qu'il était le passeur. Ça peut être le passeur et ça peut être tout à fait simplement le capitaine de fortune, comme je viens d'expliquer.
C'est vrai que quand on est sur un bateau et que bah, tout le monde ne sait pas naviguer...
Il y a des gens qui viennent de pays subsahariens et qui n'ont jamais vu la mer et qui vont se retrouver dans un bateau en général surchargé, en général où il manque de vivres et d'eau, en général sans que personne sache véritablement naviguer par une mer qui est plus ou moins houleuse, avec voilà, un voyage qui doit durer plusieurs jours, donc jour et nuit. Et c'est vrai que se trouver à bord de ce genre de petit bateau quand on ne connaît pas la mer, ça doit être absolument terrifiant.
Absolument terrifiant, et même quand on connaît un peu la mer, mais si on ne sait pas naviguer, on ne sait pas naviguer, et on a forcément besoin de quelqu'un qui navigue, et c'est une évidence que les passeurs ne seront pas là. Donc en fait, ça a été, au moins quant aux objectifs mis en avant, ça a été un gros flop, cette opération.
Frontex s'en tirera en disant que ce n'était pas un flop et que les objectifs visés étaient atteints.
Oui, ah, mais donc on a quand même eu, et on voit quand même une progression sur les opérations, puisqu'on a dit, quand on en avait parlé, qu'il y a quand même toute une suite d'opérations comme ça, et, donc régulièrement. En 90, c'était l'opération Hermès. En 2010. En 2012, c'était Aphrodite. En 2013, c'était Parcounas. Donc Hermès, il y a eu 1900 personnes arrêtées. Aphrodite, 5300 personnes. Parcounas, c'était 10500 personnes. Et donc Mos Maiorum, c'était 19234 personnes. Donc on voit que quasi à chaque fois, ça double.
On voit qu'il y a une très grande efficacité de ceux qui veillent à nos frontières.
Voilà.
Tout va bien.
Donc avant de continuer, eh bien, je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec Farhad Daria en écoutant Salam Alaik.
Andohe Shawnee.